Jean-Hugo Hanan, entre paroles et mémoire. Un documentaire sonore de Radio Larzac, produit pour l'association Nan Nature et Patrimoine.
Qu'est-ce que vous savez de Jean-Hugo ?
En fait, moins que Victor.
Vous savez qu'il avait un lien très fort avec Nantes ?
Je savais qu'ils avaient un mas à Nantes, où la famille venait assez souvent. Et les enfants, petits-enfants, venaient aussi. Ça, je le savais. Ils avaient une maman anglaise.
Je sais qu'il a fait les vitraux. Il y avait de la famille qui était ici. Il y a de la famille qui reste et qui vient. Il y a monsieur de la famille Bonneau qui est tout le temps aussi en relation.
Je l'ai connu. Ils avaient acheté une ferme là-bas et ils avaient planté des noyers, tout ça. Et ils sont restés quelques années. Et alors j'ai toujours le souvenir, parce que Hugo, c'était un homme, un malabar, quoi. C'est grand, costaud. Et ce qui était impressionnant, c'était le dimanche quand il venait à la messe, parce que c'était des gens très catholiques. Ils venaient à la messe et alors ils avaient une Rolls. Alors les portes s'ouvraient, des gamins qui sortaient de partout, ouais. Et alors l'autre truc qu'il a fait, que je vous avais dit, ce qu'il nous a fait pour notre église, il nous a fait des vitraux. Il avait fait don à la commune de ça.
Je sais qu'il a une maison là-bas, mais je suis une Nantaise récente. Donc voilà. Je sais qu'il a habité là, que c'est vers la source du Durzon, mais j'en sais pas plus. Et que c'est un des descendant de Victor Hugo.
Alors Jean Hugo, moi j'en ai entendu parler parce que c'est une expo que je voulais aller voir à 7, mais je ne savais pas s'il était de la famille du grand Victor. Mon compagnon était tondeur de brebis en Aveyron, c'est un métier pas très répandu, mais voilà, qui existe, et il allait tondre les brebis chez un certain Hugo aussi, qui était un arrière-arrière-petit-fils du grand Victor.
Alors je sais que Jean-Hugo a fait de très beaux vitraux au niveau de l'abbatiale Saint-Pierre, donc je le connais par rapport à ça. Après c'est vrai que j'ai pas pris le temps de m'y intéresser plus que ça, mais voilà, je le connais à travers ses vitraux.
Pourquoi poser des questions autour de Jean-Hugo à Nantes, au cœur de la vallée de la Dourbie ? Jean-Hugo, peintre, artiste aux multiples facettes et écrivain, arrière-petit-fils de Victor Hugo, a entretenu pendant une trentaine d'années des fortes attaches avec le village de Nantes. Né à Paris en 1894, Jean Hugo participe à la guerre de 14-18 à seulement 20 ans et retourne ensuite à Paris où il rejoint les groupes intellectuels avant-gardistes de l'époque. Ainsi, il côtoie des personnalités comme Paul Éluard, Jean Cocteau ou Louise de Villemorin. En 1929, il hérite de la maison de sa grand-mère maternelle au Mas de Fourques, près de Lunel, où il se retire pour chercher l'inspiration auprès de la nature. Il était en effet le peintre de la nature, comme le définit son fils Jean-Baptiste Hugo, qui nous a raconté comment Jean-Hugo et sa famille sont arrivés à Nantes.
Après la Deuxième Guerre, il y a un effort de reconstruction et un gros effort est fait pour développer l'agriculture. Et à ce moment-là, je crois que dans les années 50, il y a une quantité astronomique de tracteurs qui ont été achetés. Et mon père a vu, donc, dans les vignes, les chevaux de trait être remplacés par les tracteurs, alors qu'en même temps, les troupeaux commençaient à disparaître. Et là, c'était la disparition du sujet de sa peinture, parce que c'était sa vision harmonieuse de la vie, une sorte d'âge d'or, bien qu'il savait que quand même la vie des champs est dure, mais elle est dure physiquement, mais spirituellement, elle est harmonieuse. Et je crois qu'on peut en parler maintenant au XXIe siècle, à un moment où il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent revenir vers cette vie-là. Et mon père, c'est ce qu'il a peint toute sa vie. Donc, dans les années 50, il a une crise du sujet, parce qu'il ne peut plus. C'est le début de l'industrialisation de la plaine littorale. Il ne peut plus peindre ça. Et c'est à ce moment-là, en 58, que l'été, mes parents louent le presbytère du petit hameau du Mas-du-Pré, là, dans la vallée du Durzon. Et donc mon père est tout à fait inspiré par la vie des champs, par la qualité du paysage. Il a dit à des personnes qu'il connaissait dans la vallée, si vous entendez parler d'une ferme, vous me prévenez. Et peu de temps après, en effet, Ils l'ont prévenu et mes parents ont acheté, je crois, en 61, je crois, ils ont acheté la rivière. Qui a, de 1960 jusqu'à l'année de son décès en 84, mon père a été inspiré principalement par le paysage des Causses. Dans tous ces paysages, il y a vraiment une vision harmonieuse entre l'être humain, les animaux et la nature. Il y a très très peu de paysages sans animaux et sans êtres humains. C'est vraiment cette vision qu'il avait.
Le goût de Jean Hugo pour le pays nantais, la connexion avec le vivant qu'il y trouvait, est aussi décrite dans ses mémoires, lues ici par Georges Bonneau.
Septembre 1965. Clément Arnal m'a décrit comme on décrirait le paradis, la vallée dans sa jeunesse. Il y a 25 ans, on moissonnait en chantant. Les femmes ramassaient les cailloux dans les champs, en faisaient des clapasses pour 20 sous par jour. Il y avait à Nant 60 paires de bœufs, au Mas du Pré, dans la vallée, une douzaine. Un rouge que Titis habite l'église de Nant, perché sur un chapiteau. Il a assisté ce matin à la messe. Quant à Loretta, elle a trouvé au Malpas des morilles que nous avons mangées. J'ai dessiné la blaquerie et la salvetta. Arrêt et croquis à Belvezet, couleur de perles fines.
Jean Hugo et sa femme Loretta Hope Nicholson achètent donc une maison, le Mas de Rogès, dans la vallée du Dourzon, que la famille Hugo a toujours appelée la rivière et qui, pour les habitantes et habitants de Nant, devient le Mas Hugo.
Madame Carrel, née Maria Rogès, m'a fait faire le tour des terres. Les clos jaloux, où sont les vieux chênes, le martoulet, les trois courages, la longue, la ronde et la basse. Coucouriche, sommet conique d'une montagne. La faïce, terre soutenue par un mur. Puis le coustat, les groseilliers, la vigne où l'on voit encore quelques pieds de vigne, le sorbier qui a de beaux noyers, mais plus de sorbier. Sur l'autre rive du Dourzon, la rive droite, le prat dessus, où jaillit une source très pure, le champ de Mazet, le Verdus, qui était une montagne couverte de bois, le Moulinque, où l'on mettait paître les chevaux, et la Paranelle de Parane Patrimonia, la meilleure terre d'un domaine, là où les vipères abondent et où l'on défendait à Maria Rogès de s'asseoir, quand elle y gardait les brebis. Ce chêne est à monsieur, toute cette montagne est vôtre. En longeant le Dourzon, elle dit « Cette eau est mortelle. Mais je m'y suis baigné souvent et je suis encore en vie. Cette eau est mortelle, disent les habitants de la vallée. La nymphe du Dourzon attire ses amants au fond de la source et ils meurent dans ses bras glacés. »
La présence de Jean Hugo à Nant se reflète dans les trois vitraux qu'il a réalisés pour l'église abbatiale de Saint-Pierre. Il s'agit de l'héritage le plus précieux et pérenne de l'artiste sur la commune.
Nous sommes là dans le cœur de l'abbatiale Saint-Pierre.
Paulette Fournier, pilote du projet de mémoire autour de Jean Hugo à Nant.
Et les vitraux racontent 6 épisodes de la vie de Saint-Pierre. Et notamment, moi, ce qui m'a le plus touché sur ces vitraux et sur un des moments importants de la vie de Saint-Pierre, c'est, vous voyez, Saint-Pierre qui se trouve crucifié, mais à l'envers. Les couleurs sont très particulières. C'est très poétique, et c'est peut-être pour ça que c'est moderne. C'est très poétique, c'est l'œil du peintre qui aimait la nature, qui aimait la religion, puisqu'effectivement, il s'était fortement tourné sur la religion. Et ça s'inscrit d'une façon incroyable dans cette abbatiale. On a l'impression, quand on rentre pour la première fois, et lorsqu'on voit ces vitraux, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. C'est peut-être une légende, ou c'est peut-être la vérité, je ne sais pas trop. Mais on dit que ces vitraux n'étaient pas placés et que lorsque Léopoldine, je pense en 86, donc après le décès de Jean Hugo et après une inauguration un peu particulière des vitraux qui étaient installés dans le narthex, a dit au curé, si les vitraux de mon père ne sont pas installés, je ne me marierai pas à l'église, ni à Nant, ni ailleurs. Et effectivement, ils ont été installés.
Mais en plus des vitraux, Jean Hugo est encore vivant dans les souvenirs des Nantaises et des Nantais.
Je m'appelle Alain Julien, nous sommes dans ma maison ici, place de l'Église à Nantes, qui était un lieu un peu stratégique justement par rapport à M. Hugo, parce que tous les matins, il passait devant la maison pour aller à l'église, assister à la messe. Et au retour, il s'arrêtait à la boucherie avec la commande qu'avait préparée Marguerite, la personne qui faisait tourner l'intendance chez Monsieur Hugo, Monsieur et Madame Hugo. Il repartait de la boucherie avec la commande de Marguerite, tout ça après la messe. Voilà.
Je m'appelle Robert Auger, je suis retraité. J'ai rencontré la famille Hugo, je mettais mes chevaux chez eux. Ça fait à peu près une cinquantaine d'années que je les connais, quoi. À l'époque, je travaillais à la boucherie ici. Et alors, il venait, parce que tous les matins, il allait à la messe, à l'église. Et il venait acheter son morceau de viande pour son déjeuner. Voilà, il venait avec l'employé de maison qu'ils avaient, que les filles appelaient mamé, d'ailleurs. Pour moi, c'était quelqu'un de normal, tout ça. Voilà. Voilà comment je le sentais.
Je suis Didier Larasse. Je suis le fils de Léon Larasse, qui a été artisan électricien pendant une trentaine d'années, qu'on dira, à Nantes. J'ai travaillé avec lui à partir de l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à travailler avec lui, et sur tous les chantiers, quoi, je commençais, en apprentissage. Et c'est à cette occasion-là que j'ai fait la connaissance de la famille Hugo. Quand j'ai rangé les affaires de papa et tout ça, des anciens matériels qu'il avait, j'ai retrouvé des interrupteurs, des prises qu'il avait commandées spécialement. Parce qu'à l'époque, quand même, c'était quand même une famille qui avait certains niveaux. Et on avait commandé spécialement pour eux des boutons, avec des plaques exprès, tout, de couleurs. Et j'ai retrouvé ces trucs qu'il avait commandés pour le Major Rogers. Voilà. Mais le Major Rogers, pour moi, c'était la maison, si vous voulez, c'était une grande pièce. On rentrait, il y avait une grande pièce, avec une magnifique cheminée. Il y avait les dépendances autour, quoi. Il y avait la chambre de Madame Hugo, avec un petit lit à baldaquin. Très étroit, et quand on a connu Madame Hugo, enfin, je pense que tous ceux qui l'ont côtoyé comme moi ont dû vous le dire, c'est une dame assez forte, grande, très gentille. Je ne sais pas si elle était galloise ou écossaise, ou je ne sais plus, mais enfin, avec un accent magnifique, c'était superbe. Et elle avait cette pièce. La salle de bain, il y avait la salle de bain attenante. Après, il y avait un hangar à côté, un hangar là où ils stockaient les voitures, où ils avaient les chevaux à l'époque parce qu'ils faisaient du cheval. Et il y avait l'atelier en face, dépendant de la maison, l'atelier de Jean Hugo. Le matin, il se levait, il prenait sa voiture, il allait à la messe à Nantes, faisait ses courses, il remontait, il rentrait dans son atelier. Et même moi, je me rappelle quand on y travaillait avec papa, on le voyait un peu, mais très peu, quoi.
Alors moi, je suis la fille de l'électricien, Monsieur Larasse. Et donc, moi, j'ai rencontré, je suis monté plusieurs fois au Master Rogers, parce que voilà, mon père travaillait, était en relation avec Monsieur Hugo. Mais moi, j'avais 8 ou 10 ans. Monsieur Hugo, je l'ai vu peindre à son atelier. Après, j'étais gamine, hein, je ne m'en rappelle plus trop. Je sais que je le vois peindre, mais il ne fallait pas le déranger. Moi, pour être montée avec mes parents là-haut, chercher Madame Marguerite, avec qui on avait sympathisé. Et l'été, du coup, c'était, je ne sais plus si c'était pas pour le 15 août, ou c'était son jour de repos. Elle laissait la famille, elle venait manger à la maison. J'ai le souvenir de Baptiste, parce que je le trouvais charmant et d'un œil de gamine. Hein. Voilà, je me rappelle de lui beaucoup, parce que peut-être qu'on le voyait plus là-haut.
Alors Marie-Claire Coulet, agricultrice au fond de la vallée du Durzon.
Moi, je l'ai très peu connu finalement.
Parce que lui, il était en général, il était dans son atelier et il restait tranquille dans son atelier. Et puis en plus, bon, moi j'avais les clés de la maison que j'allais ouvrir régulièrement parce qu'il y a une partie de la maison qui est sous terre, qui était mangée d'humidité, donc j'allais ouvrir. Finalement, j'ai connu plus, oui, Loretta. Et puis, je ne sais plus comment elle s'appelait, la dame qui vous servait.
Marguerite.
Marguerite, voilà, oui. C'est surtout à elle que j'avais affaire finalement. Donc lui-même, je l'ai peu connu. Quoique, de temps en temps, on était invités à dîner chez vous et chez eux. Et avec les enfants et tout, qui ont à peu près le même âge, je pense, à peu près, voilà.
Du coup, vous étiez une voisine ?
Oui, voilà, je suis une voisine, la plus proche.
Je m'appelle Roland Ricoudi, toute ma famille est originaire de Nantes. Nous avons une maison, une vieille maison sur la commune, à Saint-Sauveur-du-Larzac. Et donc, nous venions en vacances régulièrement et nous continuons à venir en vacances. Pour moi, les Hugo, c'était bien entendu, comme tout le monde, Victor, le grand poète. Mais pour moi, ce qui m'intéressait, qui m'intriguait un petit peu, c'était le peintre Jean Hugo. À l'époque, je commençais à m'intéresser à la peinture et j'avais lu des choses sur Jean Hugo et j'avais vu des reproductions de son travail. Donc, je connaissais comme ça à travers mes lectures. Il avait connu, d'après ce que j'avais lu, tous les artistes de Cocteau à Picasso. C'était assez fascinant pour moi d'avoir sur la commune un homme qui avait connu toute cette vie.
Ça a été pour moi très important.
C'est ça, ouais. C'est son frère. Ouais. Et je m'appelle Jean-Baptiste.
Je suis Jean-Baptiste Compin, je suis né à la Liquis. Mon père, Casimir Compin, faisait dans les années 60 des travaux agricoles, faisait marcher la batteuse dans tous les petits hameaux. De ce fait, il a travaillé dans la propriété de la famille Hugo. Avec Jean Hugo, il y a eu des moments de conversation. Moi, je suis allé quelquefois chez eux. Et après, j'ai le souvenir de Jean Hugo traversant le village de Nain, avec sa haute stature et se rendant à la messe. Voilà.
Marie-Claude Cusigny, née à Nain. Je suis née à Nain et je suis revenue à Nain il y a 20 ans bientôt. Et évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très attachée à mon village. Et à ce sujet, donc, puisque vous me parlez de Monsieur Hugo, j'en ai un tout petit souvenir, mais qui est important pour moi parce que ça me rappelle aussi mon enfance. Monsieur Hugo, les matins d'été, garait sa voiture devant la maison, là. Et je sais que pour moi, c'était important. L'arrière-petit-fils de Victor Hugo, c'est bien. Je le vois descendre de sa voiture, dans son costume de velours, le grand monsieur avec qui imposait beaucoup et qui se dirigeait vers l'église. Et voilà, c'est un monsieur que j'ai su après apprécier à travers beaucoup de choses. Et notamment, la dédicace que m'a fait Marie Rouanet sur son livre reflète bien la personne que j'ai pu apprécier enfant, mais que j'apprécie encore plus maintenant. Et Marie Rouanet m'avait écrit à Marie-Claude sur les pas d'un peintre inclassable, d'un homme exceptionnel, que cette vie vouée à l'art et à Dieu vous incite à l'aimer. Je crois que tout est dit là-dessus.
Donc moi je m'appelle Martine Compin. Ma grand-mère était nantaise, je passais toutes mes vacances ici. Et donc, pour moi, Jean Hugo, c'est une des mémoires du village. Donc, on le voyait quand il allait à la messe du matin, c'était une légende. Et c'est surtout le souvenir que j'ai, ça me relie à mon adolescence et à la bande que nous formions à l'époque avec Jean-Baptiste Hugo. Quand je me promène, il y a un sentier qui est magnifique, qui va jusqu'à la source du Durzon. Et donc chaque fois que je prends ce sentier, que je vois le petit pont qui mène à cette maison, je pense à la famille Hugo. Et c'est vraiment c'est un souvenir très attachant.
Comment vous pourriez décrire votre père Jean Hugo ? Si vous pensez à lui, quelle image vous revient ?
Un grand amoureux de la nature. Récemment, on me demandait justement une anecdote sur mon père. Et j'ai repensé à quand j'étais ici. Donc mes parents ont acheté la maison aux Rivières en 1960-61. Et il y avait des travaux à faire. Il y avait des bergeries qui étaient écroulées. Il y avait donc des maçons. Et un jour, en bougeant des grosses pierres, ils ont délogé une vipère. Et le maçon se précipite pour aller chercher un manche de pioche, comme ça. Et à ce moment-là, mon père, qui était là, l'a arrêté d'un geste de la main. Et lui a dit, regardez comme elle est belle. Et la vipère a disparu dans les herbes. Et moi, j'étais tout petit. Alors, j'étais terrifié, toujours terrifié par les serpents. Donc, non seulement, là, c'était un nuisible, Mais en plus, pour moi, c'était un venimeux. Et cette attitude de mon père, de respect pour la nature, pour le vivant, mais et d'émerveillement, quoi. Ça m'a énormément marqué et je pense que c'était pour moi une influence très très forte. Et ça décrit bien mon père.
Cette relation avec un univers sauvage et harmonieux à la fois, c'est sûrement ce dont Jean-Hugo venait se nourrir lors de ses séjours au Mas de Rogès.
Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est arrivé dans le Midi en 1930, il a réalisé un herbier. Et ici, à partir de 60-62, à un moment, il a aussi réalisé un herbier. Ce qui veut dire que quand il arrive dans un lieu pour s'installer, ce qui est très important pour lui, c'est vraiment de s'ancrer dans le territoire et de bien connaître. Il s'intéressait à tous les aspects de la nature. J'ai découvert un manuscrit donc, de mon père qu'il a appelé l'Herbarium Hugonense, c'est-à-dire que c'est la flore de Victor Hugo. Il a relu l'intégralité de l'œuvre de notre aïeul, l'intégralité, en notant systématiquement toutes les références aux plantes, aux fleurs et aux arbres. Il a recopié le passage en mettant dessous le titre du livre et la page. Il y a 800-900 pages manuscrites à la plume. Voilà, je suis en train de le faire numériser, on va commencer à travailler dessus.
Je sais que cet endroit là-haut, il est fabuleux. Cette maison là-haut, c'est le meilleur endroit de la vallée du Durzon. En étant d'ici, je marche beaucoup. J'y ai été me promener même comme ça, rien que pour avoir la vue de toute la vallée. C'est ensoleillé. Il y a un point de vue à 160 degrés sur toute la vallée, sur le Mas du Pré. Et puis c'est calme, il y avait une jolie bâtisse. Mais comme avec le temps, tout s'abîme.
J'ai toujours le souvenir extraordinaire de l'harmonie de cette vallée, cette petite vallée, et puis la perspective sonore. Ça, c'était peut-être ma première expérience presque mystique, quoi. De communion avec la nature. Quand on entendait les aigles, les gens Leblanc au-dessus, on entendait le cours de la rivière, l'Angélus de la petite église du Mas-du-Pré, on entendait un chien aboyer là-haut, au coup d'air sur le plateau, enfin, un paysage sonore, mais extraordinaire, quoi. Et j'en ai la nostalgie depuis, de toute ma vie, parce que c'est quelque chose de très rare maintenant.
Un paysage qui fait naître chez Jean-Hugo une forme d'engagement écologiste.
C'est une personne qui a d'abord beaucoup aimé, je pense, Nantes, qui était très en avance sur l'écologie. Dans ses carnets, il a une phrase sur le curage du Durzon. C'était une opération qui avait été faite dans les années 60 pour nettoyer le cours du Durzon. Il a, je crois, deux phrases, mais assassines sur l'opération qui se déroulait.
Le 10 août, exposition d'animaux empaillés dans une bergerie voûtée du Causse-Noir, organisée par de jeunes écologistes et ornithologues amis de Baptiste. Ils nous aideront peut-être à empêcher le massacre des arbres des bords du Durzon. Mais le 16 août, visite de M. Alain de Châtelard et de Jean-Claude Coulet. Renversement des alliances dans la guerre pour le Durzon. Le massacre des bords de la rivière peut s'entreprendre. Une machine rouge, le bourreau, se prépare à achever le meurtre du cours d'eau. Abattant les arbres, massacrant les animaux, empoisonnant les eaux, l'homme, par orgueil, se jette lui-même éternellement, mais de plus en plus hors du jardin d'Éden.
Jean-Hugo était profondément lié non seulement au paysage des Grands Causses, mais aussi aux habitantes et habitants de la vallée et du plateau du Larzac.
Et mon père, avec Jean-Hugo, il y avait un lien supplémentaire, c'était la religion catholique, et le fait que mon père était chantre organiste le dimanche à l'église, et chantait et connaissait le chant grégorien. Et Jean-Hugo était très sensible à toutes ces choses. Donc ça avait créé des liens. Mon grand-père, à Saint-Sauveur du Larzac, le forgeron, Jean-Hugo le cite dans ses carnets parce qu'il est allé chez lui, parce que pour lui, c'était un artisan artiste. Et j'ai souvenir d'être dans la forge de mon grand-père avec Jean Hugo et mon grand-père. Ils étaient tous les deux très mutiques, j'allais dire. Mais mon grand-père, quand il avait fini de forger une pièce, disait « Allez, nous allons boire un verre ». Et ils montaient à l'étage, dans la pièce où ma grand-mère les attendait, leur servait à boire, et c'était les souvenirs de la guerre de 14. Parce que mon grand-père avait fait la guerre de 14, était revenu vivant, comme Jean Hugo. Son frère était mort. Donc c'était, moi j'étais enfant et je garde ces souvenirs de les entendre parler. Il ne fallait rien dire. Maintenant, quand j'y repasse, c'était des moments très, très rares.
Jean Hugo et Loretta Hope Nicholson ont eu 2 fils et 5 filles. Charles, Marie, Jean-Baptiste, Adèle, Jeanne, Sophie et Léopoldine. Plusieurs des personnes interrogées se souviennent de l'arrivée de cette grande famille dans le village, comme nous le racontent Roland Recouli et Jacques Bouza.
Cette voiture qui est arrivée sur la place avec tous les enfants dedans, Madame Hugo au volant, son mari parfois à côté, et puis elle était chargée de mal de partout, sur le toit, derrière, sur le porte-bagages. C'était extraordinaire. Mais pour moi, quand je voyais arriver cette voiture, c'était un petit peu les vacances qui commençaient, l'été qui commençait. C'était formidable de voir, et étrange, original, de voir toute cette famille arriver. C'était également un souffle de poésie, d'originalité qui traversait le village.
Le souvenir, bien sûr, dont tout le monde parle, qui était celui de l'arrivée à Nantes de Monsieur et de Madame Hugo, qui arrivait dans une Rolls-Royce datée, une Rolls-Royce assez extraordinaire, qui avait une prestance certaine.
Les enfants de Jean Hugo, pendant les vacances d'été, forment une bande d'amis avec leurs camarades nantais et estivants.
On passait les vacances ensemble. Quel âge on avait, une 15aine d'années.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est l'époque qui est le plus venu. Ah, voilà, donc c'était les balades en vélo, la rivière, tout ce qu'on fait quand on est adolescent. Et les terres bleues. On allait chercher des fossiles aux terres bleues. C'était vraiment ça, nos activités.
C'était le rendez-vous
sur le quotidien
parapet. Sur le parapet. C'était de temps en temps...
La
rivière, voilà, Castelnau, on allait se baigner à Castelnau. Pas dans le Durzon, dans le Dourouille.
Ouais,
hein.
Ouais.
On appelait ça comment? C'était pas le marteau avec ce qu'on faisait...
Oui, dans les Vernèdes.
On faisait des tustés.
Des tustés, oui.
Oh là là.
Alors on accrochait... Quoi on faisait? On accrochait une pierre. Au bout d'une ficelle, on allait taper.
On l'accrochait au heurtoir et on activait avec la ficelle, ce qui donnait un mouvement au heurtoir. En fait, on sollicitait le jet d'un pot de chambre. C'était ça l'objectif. L'objectif, c'était le jet du pot de chambre.
Ça se passait la nuit.
Ça se passait le soir.
Le soir. Donc c'était, voilà, et quand les gens ouvraient la porte... On partait en courant pour ne pas recevoir le pot de chambre qui nous lançait dessus.
Enfin, au-delà des expériences partagées, des objets qui évoquent Jean Hugo se cachent dans les placards de quelques habitantes.
Ah ben, grâce à Paulette, évidemment, j'ai ressorti tous mes petits souvenirs que j'avais. Elle est un peu abîmée parce qu'elle est restée longuement dans ma cave rue d'Amade, mais elle est toute belle. Et pour moi, ça a une valeur inestimable.
Vous l'avez toujours pas bu?
Ah non, c'était précieux. Ah non, j'en ai deux, dont une dont le cachet de cire est un peu cassé. Et alors, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est l'étiquette faite par Monsieur Hugo. Muscat de Lunel, vin d'eau naturel, appellation contrôlée, Hugo, Mas de Fourques, à Lunel et Roux, mis en bouteille au Mas.
J'ai des factures signées de Monsieur Hugo à mon papa en tant qu'électricien. J'ai des livres dédicacés. Bon, j'en ai deux ou trois. Mes parents avaient été invités au mariage de Marie, à Fourques. Je veux faire part du mariage. Après, j'aime bien tout ce qui est historique, généalogie. Donc, de par là aussi, je le garde.
Ainsi, la famille Hugo fait désormais partie de l'histoire de Nantes.
Le fait qu'ils aient vécu sur Nantes, c'est quand même une attache qu'ils avaient. Ils avaient une attache quand même sur le village, parce qu'ils montaient quand même longtemps. Ils passaient tout l'été, je crois qu'ils montaient à partir du mois de juin, et ils restaient jusqu'à l'automne quand même. Puis M. Hugo, c'était quand même quelqu'un, et puis il descendait au village, quoi. Il faisait les courses et tout, ça fait que bon, c'est quand même des gens qui ont laissé une image, quoi, si vous voulez, une bonne image en plus.
S'il a laissé cette empreinte dans notre église, c'est que le village pour lui était important. Pour la famille Hugo, non, c'était quelque chose, c'était très important pour eux. Pour eux, on n'était pas des étrangers, quoi. Voilà, c'était pas que des gens qui venaient, qui étaient que des estivants. Pour beaucoup, ils faisaient partie de la communauté. Je vous dis, moi, quand je mettais les chevaux dans leur propriété, j'allais là-haut, j'allais les voir. Madame Hugo m'invitait à aller boire, prendre l'apéritif avec elle, souvent. C'était sympa, quoi. Un type qui laisse une œuvre comme ça, c'est que le pays dans lequel il vient, où il est, est important. C'est pas une aumône qu'il a fait au pays, hein. C'est un cadeau. Les gens le savent, les gens le connaissent, hein. Parce que moi, je vois quand les gens viennent chez moi, des amis qui viennent à la maison, me disent, savent qu'à 300 mètres de chez moi, il y a la maison des Hugo. Après, bon, les anciens connaissaient plus que les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est toujours pareil, parce qu'avec le temps, ça s'estompe, quoi.
L'association Nantes Nature et Patrimoine souhaite faire revivre et transmettre la mémoire de Jean Hugo et de ses traces nantaises via le Salon de la Gravure. En 2025, il se tient du 9 au 11 mai. Cette année, c'est Jean Hugo qui est l'artiste invité du salon et en son honneur seront exposées la reproduction des vitraux, des collections privées d'objets et des tableaux de l'artiste en lien avec les paysages des Grands Causses. Paulette Fournier, pilote du projet du Salon de la Gravure, explique la genèse de cette édition consacrée à Jean Hugo.
Ah ben je crois que c'est venu à la suite de notre rencontre avec Jean-Baptiste, où nous avons évoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, je lui ai dit, mais Jean-Baptiste, ce serait intéressant de garder en mémoire ce salon de la gravure, qui va être quand même particulier, puisque l'artiste invité n'est pas vivant, et l'artiste invité, c'est quand même un Nantais. Il y a eu des relations particulières entre la famille Hugo et les Nantais. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir en mémoire et garder en mémoire des témoignages ne serait-ce aussi que du quotidien de la famille Hugo et de la vie de la famille Hugo à Nantes avec les Nantais. Parce qu'on ne peut pas dissocier aujourd'hui la famille Hugo et les Nantais. Les Nantais et la famille Hugo. Et cerise sur le gâteau, chaque artiste a reçu un texte de Jean Hugo avec la consigne de pouvoir l'illustrer à leur façon, et qui sera exposé en Leporello dans la salle du salon. Et nous avons demandé aux artistes un effort supplémentaire, puisqu'on leur a demandé de faire un double exemplaire, parce qu'effectivement, il y a un exemplaire qui sera remis par l'Association de la Nature et Patrimoine à l'Association des Amis de Jean Hugo, et l'autre exemplaire qui sera conservé par l'Association de la Nature et Patrimoine pour pouvoir faire une édition. Là aussi, c'est un travail de mémoire.
Pour Jean-Baptiste Hugo, cultiver la mémoire de la vie de son père aujourd'hui, c'est surtout transmettre la sensibilité au vivant que l'œuvre de Jean Hugo incarne sous plusieurs facettes.
Ici, la vallée du Durzon, ça a été le macrocosme, ça a été vraiment pour moi l'éducation à la nature. Et ça m'a énormément marqué jusqu'à maintenant. Enfin, je veux dire, je suis ravi de revenir ici parce que j'y pense très très souvent. Parce que c'était une expérience spirituelle, en fait, cette harmonie visuelle, mais aussi sonore. Et le seul moyen pour moi de garder un peu d'espoir, eh ben, c'est d'essayer de transmettre cette attitude aux jeunes générations. J'ai hérité de mon père et lui, probablement de Victor Hugo, qui avait une connexion tout à fait extraordinaire à la nature. C'était vraiment le poète de la nature. Il avait interdit à son jardinier à Hauteville-Hals de couper... Il y avait un arbre dont une branche... poussé un peu en travers du chemin, il fallait se baisser. Il avait interdit au jardinier de couper la branche, disant « on ne dérange pas les arbres ». Donc j'interviens dans les écoles, je fais des montages, des projections de diapositives, des œuvres de mon père, je retrouve les sites. Moi je suis photographe, je prends une photo aujourd'hui, je leur montre, et c'est intéressant parce que je ne dis rien. Et là, la semaine dernière, j'étais dans une école à Nîmes, je leur montrais donc le tableau de mon père des années 40-50, la photo aujourd'hui, ah ben c'est pas beau, c'est moche. Non. Voilà, parce qu'il y a un sens commun.
C'était
Jean Hugo à Nantes, entre paroles et mémoire.
Un documentaire sonore de Radio Larzac, produit pour l'association Nantes Nature et Patrimoine, à l'occasion du 7e Salon de la Gravure et de la Microédition. Écriture, réalisation et montage de Sofia Pavanini, mixage et mise en onde de Nicolas Galtier. Merci à Paulette et Alain Fournier, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu témoigner au micro. Ce documentaire est à retrouver en podcast sur radiolarzac.org.